La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jean-Luc Lagarce aurait 63 ans s'il n'était mort prématurément en 1995 du virus du sida qu'il a emporté à l'âge de 38 ans seulement. On ne peut pourtant pas dire qu'il a raconté sa maladie, à peine est-elle présente en arrière-fond de certaines de ses pièces comme Juste la fin du monde, où le personnage de Louis vient annoncer à sa famille qu'il est séropositif mais sans réussir finalement à aborder le sujet. L'autobiographie n'est donc pas réellement un ressort de son théâtre, ce qui ne nous a pas empêché de nous intéresser à sa vie dont nous a parlé Jean-Pierre Thibaudat au cours de notre premier épisode à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Le langage, la parole, les sous-entendus, la musique des mots, c'est là que réside la spécificité du théâtre de Lagarce, comme nous l'a expliqué Lydie Paris lors de notre deuxième épisode. Et enfin, dans le quatrième temps de cette série, c'est sur le journal que nous nous pencherons grâce à Marie-Hélène Boblet, professeure de littérature française à l'université de Caen. Et aujourd'hui...
Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Aujourd'hui, on va parler de la pièce de Lagarce « Juste la fin du monde » et de son adaptation par le réalisateur québécois Xavier Dolan. Nous sommes en compagnie d'Alexis Leprince, agrégé de littérature. Il a coordonné avec Pascal Lécroard le numéro 5 de la revue « Scénographie » consacrée à cette pièce. Pièce qui est aujourd'hui au programme de français des premières générales pour les épreuves anticipées du bac. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres.
C'est vrai, ce que j'entendais beaucoup à l'époque, c'est « on n'y comprend rien, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage ». Voilà, ce qui me semblait totalement fou. Il y a des histoires, il y a des personnages, mais c'est vrai qu'ils sont...
Eh bien, il semblerait qu'il y ait un nouveau problème technique cette semaine. Nous avons beaucoup de difficultés. Ça n'est pas cette fois la liaison, mais c'est... probablement, tout simplement, le diffuseur qui a planté, c'est donc notre ordinateur principal ici dans le studio, qui n'existe plus. Alors, nous allons parler avec vous, Alexis Leprince. Si vous êtes là, en revanche, je ne le sais pas, est-ce que...
Bonjour.
Vous êtes là, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de cette pièce de théâtre qui est devenue aujourd'hui célèbre. Faut le dire d'emblée, elle est extrêmement jouée, que ce soit en France comme à l'étranger. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce succès très très large ?
Il y a plusieurs explications. D'une part, c'est l'une des pièces qui, dans l'ensemble des pièces qu'a écrites Jean-Luc Lagarce, disons c'est l'une de celles qu'il a le plus travaillé et concentre le plus l'ensemble des thématiques dont Jean-Luc Lagarce voulait parler pendant sa vie d'écrivain et d'écrivain dramatique.
Une sorte d'acmé pour lui ?
C'est une sorte d'acmé, complètement, et d'ailleurs il l'exprime assez clairement dans son journal, où il dit véritablement, à partir du moment où il est atteint du sida, où il sait qu'il va mourir, que pour lui, c'est vraiment la chose qu'il veut écrire. C'est vraiment juste la fin du monde qu'il veut écrire, dont il veut venir à bout, avec un autre texte qui est un roman, dont il veut également venir à bout et qu'il écrit en même temps. Donc, véritablement, dans cette pièce, il cherche à dire un certain nombre de choses qui sont des choses qu'il essaie de dire pendant tout son théâtre.
Alors je voudrais quand même signaler, pardonnez-moi, pour redire aussi l'importance finalement de cette pièce en français à l'étranger, qu'elle a été énormément traduite en 18 langues, et y compris en Kiswahili, c'est une langue que je ne connaissais pas personnellement, mais ça dit bien à quel point finalement ça peut intéresser un grand nombre de personnes à travers le monde.
Tout à fait. Et ça résume également le, ça montre également le travail de Jean-Luc Lagarce, puisque vous la rappeliez en présentant l'émission à l'instant. À aucun moment dans la pièce, il n'est question, par exemple, du sida. Mmh. Le travail de Jean-Luc Lagarce va vraiment consister généralement à effacer un certain nombre de signes, de détermination concrète, par exemple ici la maladie et plus particulièrement le sida, pour en faire une pièce qui parle de manière assez universelle du rapport à la mort, de la mort. Et c'est bien ça qui explique aussi le succès de Juste la fin du monde, c'est bien finalement le fait que Jean-Luc Lagarce écrit en pensant à des thèmes universels. Comme cela.
Alors on va revenir hein, sur tous ces thèmes évidemment qui sont très importants. Peut-être avant cela, commençons par planter un petit peu le décor du moment où Jean-Luc Lagarce écrit cette pièce. Vous allez nous expliquer un peu plus tard à quel point ça a pris des années au fond, puisque vous êtes un peu spécialiste justement de cette génétique du texte de Jean-Luc Lagarce et de cette pièce en particulier. Mais d'abord, est-ce qu'on peut voir un peu à quoi ressemblait le théâtre contemporain à l'époque de Lagarce? Quels pouvaient être les courants? Quels pouvaient être les clivages? Et comment finalement le situer, Alexis Le Prince?
Alors, Jean-Luc Lagarce, il fait partie d'une galaxie d'auteurs dramatiques qui sont rattachés à théâtre ouvert. Hein. C'est-à-dire, il fait partie d'une écurie, un petit peu, qui est celle théâtre ouvert, qui avait pour objectif de mettre en avant l'écriture dramatique à cette époque. Puisqu'il faut savoir que théâtre ouvert, donc, dont s'occupaient Lucien et Micheline Atoun, avait l'objectif de remettre au centre la question des auteurs dramatiques après une époque un âge d'or, c'est-à-dire l'après-guerre où qui avait vu Beckett, Ionesco, Genet, beaucoup de grands auteurs dramatiques. Et bien les années 70-80 avaient vu surtout l'émergence, notamment après 68, de figures de grands metteurs en scène
comme Chéreau, paysage... Gruber par exemple.
Exactement, tout à fait. Donc c'est eux qui dominent à ce moment-là quand même le paysage dramatique contemporain, on va dire. Hein. C'est l'époque où Chéreau est par exemple directeur des Amandiers à Nanterre. Hein.
Il y a Mnouchkine aussi qui émerge à peu près à ce moment-là.
Il y a Mnouchkine, à l'Odéon, c'est la période de Strehler. Donc ce qui domine le paysage dramatique, ce sont essentiellement les metteurs en scène. Et Théâtre Ouvert va aider les auteurs à revenir au devant de la scène, hein, véritablement. Et donc, Jean-Luc Lagarce fait partie de cette galaxie avec, bien sûr, Bernard Maillet-Coltès qui est très connu, Didier-Georges Gabilly, mais d'autres auteurs et d'autres autrices comme Enzo Corman, comme Noël Renaud, qui vont essayer de reprendre un peu le devant de la scène au niveau de la création contemporaine.
D'ailleurs, on a tendance à associer un peu Gabilly, Coltès et Lagarce parce qu'ils sont tous les trois finalement morts très jeunes.
Exactement, hein. Dans cette génération-là, en effet, Coltès qui meurt en 90 ou 91, je crois, Lagarce en 95 et Gabilly en 95 ou 96. En effet, ce sont trois auteurs qui sont souvent associés, puisqu'en effet, on n'a qu'une partie de leur œuvre en un sens, et on se demande souvent s'ils avaient vécu plus longtemps, qu'est-ce qu'elles seraient devenues, quelles autres pièces ils auraient pu nous donner. Et donc, en effet, ils sont souvent associés, mais également ils sont souvent associés parce que ils ont tous les trois porté à des niveaux différents, disons, une vraie pensée, une nouvelle pensée de l'écriture dramatique et un nouveau souffle de l'écriture dramatique. Et ce nouveau souffle était apporté également par une proximité importante que ces trois auteurs avaient avec la scène. Mmh. Coltès, bien entendu, il avait une expérience personnelle, mais également dans sa collaboration avec Chéreau. Gabilly aussi avec l'atelier, hein, le groupe Chang, et Jean-Luc Lagarce parce qu'il était lui-même metteur en scène et qu'il a une formation, vous l'avez rappelé lundi, une formation d'acteur au départ. Hein. Donc c'est aussi, cette génération, c'est aussi une génération d'auteurs dramatiques qui sont portés par une connaissance des réalités du théâtre, qui est à ce moment-là absolument nécessaire, puisque la mise en scène a véritablement fait une révolution depuis quelques années et que l'écriture dramatique doit en prendre compte.
Alors, on associe donc Gabilly, Coltès et Lagarce. Ça ne veut pas dire qu'ils font école, ça ne veut pas dire que leur théâtre se ressemble. Et même Lagarce et Coltès, par exemple, n'apprécient pas mutuellement le théâtre de l'autre.
Oui, tout à fait. Lagarce voit les pièces de Coltès. J'ignore si l'inverse est vrai. Mais en tout cas, Lagarce voit Key West, notamment, dans la mise en scène de Patrice Chéreau.
Et sur des thématiques qui auraient pu l'intéresser quand même, l'errance aussi, l'homosexualité, la drague.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant puisque quand il voit, il est à Berlin au moment de la création de Roberto Zucco par Peter Stein. Et il va voir la pièce, il connaît forcément très bien Koltès. Koltès est également fait partie également de l'équipe de Théâtre Ouvert. Il est accompagné par Lucien et Michel Natoun. Et sa réaction est intéressante de ce point de vue puisqu'il dit, je cite de mémoire, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il dit, mais il connaît bien en fait pour lui ces recoins sombres, l'ambiance des quais. Il y a quelque chose qui dans l'écriture de Koltès semble ne pas assez le sortir de ce qu'il connaît un petit peu justement cette errance de rapport aux gens ambigu et difficile. Et je crois que dans l'écriture, ce qui distingue peut-être Lagarce et Koltès, c'est que Lagarce va tenter lui de trouver par l'écriture autre chose, de sortir justement de ce type d'errance, il me semble.
Avant 95, date de sa mort, vous aviez vendu 200 textes à peu près
oui.
de lui. Et depuis, c'est par milliers que vous avez vendu les textes de Jean-Luc Lagarce. Ça fait quel effet, ça ? Qu'est-ce que c'est que cet engouement tout à coup post-mortem, François Béreur ?
Ça a été petit à petit, c'est-à-dire que ce qu'il y a eu en 95, 96, jusqu'en 2000, 2001, etc. Donc c'est quand même là 12 ans ou 13 ans après son décès. Donc c'est pas un engouement post-mortem, c'est au fond quelqu'un qui est mort jeune, c'est un peu différent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait une œuvre importante et qui est mort à 38 ans. Donc aujourd'hui j'ai presque 50 ans, plus je vieillis, plus je trouve qu'il est mort jeune. Donc je pense qu'il faut relativiser ce rapport à une œuvre qu'on découvre quand quelqu'un meurt. C'est quelqu'un qui est mort à 38 ans, il n'y a rien de choquant que ce ne soit pas le plus grand auteur français à 38 ans. Dans le théâtre. Sachant que le théâtre est quand même peu médiatisé, même si on est en train de parler au micro.
Alors parlons peut-être un peu plus de Juste la fin du monde, cette pièce qui n'a pas vraiment rencontré le succès au départ. Vous allez nous raconter sa genèse. François Béreur le soulignait à l'instant en archive au micro de Joël Gaillot. Alors Alexis Le Prince, quand est-ce qu'il commence à s'intéresser finalement à cette thématique qui va être au centre de Juste la fin du monde? Je crois qu'il l'a écrite en 1990 à Berlin, mais en réalité, il faut remonter beaucoup plus tôt pour savoir quand germe un petit peu l'idée de Juste la fin du monde. Alexis Le Prince.
Tout à fait. Et on peut même remonter jusqu'au tout début de ses essais d'écriture. L'écriture de Lagarce fonctionne par cycle, véritablement, d'écriture. Et Juste la fin du monde appartient au cycle du retour du fils, c'est-à-dire des pièces qui narrent le retour d'un personnage qui est chez lui, en général, qui est le fils. Et de ce point de vue, au moment où il est encore comédien, metteur en scène, amateur, il écrit une pièce qui s'appelle « Elles disent l'Odyssée », qui est aujourd'hui publiée d'ailleurs par les Solitaires Intempestifs par François Béreur, qui raconte, qui est une réécriture de l'Odyssée. Donc l'Odyssée, je le rappelle bien entendu, le retour d'Ulysse à Ithaque. Et par la suite, c'est en 84 qu'il va commencer à écrire, enfin en 82 pardon, qu'il commence à écrire une autre pièce qui s'appelle « Retour à la citadelle », où déjà on a le retour d'un fils qui a réussi dans la famille, au pays de la famille qui est restée sur place, elle. Et cette pièce donc commence à être écrite en 82, elle est terminée en 84, elle sera mise en scène seulement en 1990 par François Ronsillac. Et Jean-Luc Lagarce reprend cette thématique à partir de 1988. Il veut s'atteler à une pièce courte, comme il dit, et cette pièce courte reprend encore une fois donc la thématique du retour du fils. Il va dire, cette fois-ci, il n'y a plus d'enjeu. Dans Retour à la citadelle, il y a, si vous voulez, le fils revient pour reprendre la direction de la ville, il devient nouveau gouverneur de la ville. Dans Juste la fin du monde, la thématique va être beaucoup plus intime. Cette fois-ci, il s'agit simplement d'un retour dans la famille, sans thématique de pouvoir particulier. Donc en fait, cette pièce Juste la fin du monde, vous le savez, sera réécrite en 94-95 sous le titre Le pays lointain, qui devient donc une nouvelle pièce.
Donc c'est 10 donc, années, presque, même un peu plus que 10 années de gestation.
Oui, alors presque 10 années de gestation, en effet, tout à fait. Où Lagarce va peu à peu affiner véritablement sa thématique. Il va l'affiner d'un point de vue personnel, mais également en se confrontant aux œuvres des autres, puisqu'il y a eu aussi des rencontres littéraires. Par exemple, il voit en 1983 Par les villages de Peter Handke, mis en scène par Claude Régis. Et c'est une pièce qui raconte également le retour d'un personnage dans sa famille d'origine ouvrière pour régler une question d'héritage. Et c'est une pièce qui va profondément le marquer et qui va le renvoyer énormément à sa thématique d'écriture, qu'il a déjà à ce moment-là. Hein, qu'il a déjà. Donc oui, c'est une gestation extrêmement longue, et même l'écriture de la pièce, qu'il commence en 88, donc, il la termine seulement en 90. Or, c'est assez rare dans l'ensemble des dossiers génétiques qu'on a de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, par exemple. Il y a des pièces qu'il écrit en un été, en un mois et demi, deux mois, la pièce est écrite. Donc là, qu'il écrive vraiment en deux mois, montre la longueur, la difficulté aussi d'écriture. Hein, il témoigne beaucoup là-dessus. C'est une pièce qui lui donne beaucoup plus de difficultés que certaines autres.
Mais alors du coup, cette obsession du retour du fils, est-ce qu'on la retrouve dans sa vie à lui? Et par exemple, dans son journal, est-ce qu'il semble avoir ce type de rapport avec sa propre famille?
Oui, alors c'est une question difficile, puisqu'en effet, on trouve dans le journal beaucoup de moments où il raconte des retours chez lui, hein, donc à Valentinet. Et je pense qu'il faut dire que quand même, les relations de Jean-Luc Lagarce avec sa famille ne sont pas simples. Mm-hmm. Elles ne sont pas aussi difficiles que ce qui est marqué dans Juste la fin du monde. Mais néanmoins, il souffre à certains moments de la distance qui peut le séparer de ses parents. Distance géographique, bien sûr, mais aussi une certaine distance dans les choix de vie qu'il a fait et qui l'éloigne, en un sens, de sa famille, de ses parents, mais aussi de son frère et de sa sœur, hein, de son frère surtout, essentiellement. Donc, oui, on retrouve quand même dans le journal, même si c'est pas sous la même forme, on retrouve parfois une forme de rapport qui n'est pas simple, qui n'est pas limpide avec la famille. Hein. C'est une problématique dans sa vie personnelle qui me semble importante, en effet.
Actuellement, je vais beaucoup en province parce que je suis en tournée. Il faut quand même voir que l'exclusion, ça existe. Donc, les gens qui écrivent, qui mettent en scène, mais elle existe très violemment. Moi, quand j'ai laissé passer dans Libération que j'avais le sida, pendant quelques nuits, mon téléphone sonne pour qu'on me dise des horreurs au téléphone. Ça existe quand même. C'est-à-dire que si vous voulez, ça m'empêche pas de dormir parce qu'après, j'ai un répondeur. mais quand je dis ça m'empêche pas de dormir, je blague et je blague
bien
pas.
Sûr.
Parce que quand à un moment donné, parce que vous laissez dire dans un journal que vous êtes malade et que vous faites du théâtre, vous avez votre téléphone qui sonne, et fatalement des gens qui connaissent votre numéro de téléphone. C'est pas, ou alors je veux bien croire qu'il y a des gens qui vont chercher, mais et vous avez des appels anonymes pour vous dire des choses pas très gentilles, pas très sympathiques. Enfin, qu'ils croient pas trop sympathiques parce qu'ils ne me concernent pas beaucoup. Mais donc je me dis que ça existe. Donc après, juste pour dire ça, c'est que on n'a pas à revendiquer ou pas revendiquer, si ce n'est que les gens qui peuvent parler comme là au micro doivent faire ça. Voilà. Moi, je le connais pas, je juge pas. Quand, à la fin de la vie de Rudolf Nureyev, on essayait de me faire croire qu'il allait mourir de je sais pas quoi, je trouvais ça un peu étrange, parce qu'un immense artiste avait presque, entre guillemets, mais je veux pas juger ça, parce que chacun fait comme il sent. Mais je pense qu'il y a presque mission, par moment, de dire, bon, on peut avoir le sida et continuer à marcher dans la rue et à vivre, entre guillemets, normalement. Moi, ça fait plus de 8 ans que je sais ça. Donc 8 ans, un jour j'ai dit un peu méchamment, parce qu'on m'a dit, vous êtes dans le théâtre et vous êtes malade. J'ai dit, j'étais malade avant d'avoir les subventions, parce que 8 ans, c'est beaucoup d'années. Quand on a 38
Absolument.
Ans, c'est énorme.
Bien sûr.
Moi, j'ai su ça quand j'avais pas tout à fait 30 ans. Donc c'est énorme. Donc la plupart des spectacles que j'ai faits qui ont été vus, la plupart des pièces que j'ai écrites qui ont été jouées, j'étais déjà malade. Donc, quelque part, je veux dire, je vis ça avec depuis plus longtemps que les autres, parce que les autres, bon, ils l'entendent aujourd'hui ou il y a quelques semaines ou je sais pas quoi. Mais moi, ça fait très longtemps.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Lagarce au micro en archive de Lucien Atoun. Alors on l'a dit, le sida, ça n'est pas le sujet de juste la fin du monde. Et c'est d'autant plus intéressant de découvrir avec vous, Alexis Le Prince, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure en faisant la chronologie de la gestation de cette pièce, elle a été écrite avant que Jean-Luc Lagarce ne découvre qu'il était séropositif, et sans doute même avant qu'il ne le soit, et bien avant même.
Tout à fait, oui, oui. Alors, elle est, quand il la termine à Berlin, il sait qu'il est malade du sida, hein, et qu'il va en mourir.
Est-ce que ça change du coup quelque chose dans le texte ou pas ?
Pas forcément, pas tout à fait, parce que c'était ce que j'allais dire. Véritablement, il y a chez Jean-Luc Lagarce, à la fois dans son journal, donc c'est-à-dire dans ses pensées, mais également dans son écriture, dans d'autres œuvres, une forme de préscience de la mort, hein, et de la maladie. C'est-à-dire que dès le début des années 80, on lit dans certaines de ses pièces, par exemple l'Histoire d'amour, mais on lit aussi dans le journal, dans certaines de ses projections d'avenir, qu'il décédera de maladie. Hein. Bien entendu, dans ces années-là, circule le sida. Comme il le dit, il est au courant de nombreuses personnes qui en sont malades et qui en décèdent. Et bien sûr, il craint lui-même de l'attraper, de l'avoir et d'en mourir. En effet, dès le début, dans son écriture, cette conscience de la maladie, cette conscience de la mort, et cette volonté d'écrire face à la maladie, face à la mort, est extrêmement présente, hein, tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler d'une pièce testamentaire ? Parce que dans son journal du 26 mai 1990, qu'il rédige à Berlin, en tous les cas à cette date-là, il écrit « J'ai un peu avancé sur quelques éclaircies que je songe à rebaptiser juste la fin du monde, et puis je bute à nouveau. Je pense qu'il y a là quelque chose d'important, tout près que je n'arrive pas à atteindre. » Et un peu plus loin, c'est ma dernière pièce aussi, ou encore, si on veut être optimiste, après celle-là, si je la termine, les choses seront différentes. Donc cette idée qu'il a que c'est sa dernière pièce, est-ce que ça en fait un testament pour vous ?
Oui, en un sens, comme je vous le disais, c'est vraiment une pièce où il cherche à concentrer beaucoup de choses qu'il a envie de dire, notamment, je pense, dans son rapport par rapport aux autres, dans son rapport à l'altérité, dans le rapport qu'il entretient avec la vie et les choix de vie qu'il a fait. Et par conséquent, juste la fin du monde, pardon, est importante pour parler de ces sujets-là, de l'écart que sa vie a mené par rapport aux autres, notamment ceux qui sont restés au pays ou ceux qui sont restés à Besançon.
Alors on va revenir aussi justement sur ce thème-là. Peut-être alors du coup raconter, puisqu'on est aussi dans la genèse de cette pièce, le premier refus finalement par Lucien Atoun de Juste la fin du monde, quand de retour de Berlin, où il était, parce qu'il avait une bourse, la bourse Léonard de Vinci. Voilà, il rentre et puis il donne la pièce à Lucien Atoun, mais ça ne passe pas tellement.
Tout à fait. Les relations avec Théâtre Ouvert se sont dégradées à ce moment-là depuis un moment. Il faut savoir qu'il y a un peu deux périodes véritablement dans l'œuvre de Jean-Luc Lagarce. Il y a une première période au début où l'écriture est extrêmement joyeuse, extrêmement claire, où il rencontre assez vite le succès. Il est monté assez rapidement à la Comédie Française. Il met en scène ses propres textes et en général, ses mises en scène de ses textes sont bien reçues véritablement par la critique et par le public. Et il connaît en 1986 un échec extrêmement important lors d'une invitation à un festival de théâtre à Paris qui s'appelle le Printemps du Théâtre. Et c'est l'échec d'une mise en scène, pardon, d'une de ses pièces qui s'appelle De Saxe Roman. C'est un vrai échec, une vraie catastrophe, il emploie lui-même le terme. Et après cet échec, qui en plus se déroule à Paris devant le gratin véritablement du monde théâtral de l'époque, il va décider de changer radicalement sa manière d'écrire. Et véritablement, à partir de 1986, si on regarde bien l'œuvre de Jean-Luc Lagarce en son ensemble, on va pouvoir constater une évolution de son écriture. Et d'ailleurs, généralement, on connaît surtout les pièces qui sont écrites après 1986, c'est-à-dire, par exemple, Dernier remords avant l'oubli, c'est-à-dire Juste la fin du monde, J'étais dans ma maison, que j'attendais la pluie vienne, etc. À ce moment-là, en fait, Jean-Luc Lagarce va se rapprocher d'une certaine écriture, de l'intime, d'une écriture d'une veine un peu plus personnelle, notamment, et il va rompre avec certains automatismes d'écriture, qui sont l'évocation souvent d'un passé très lointain, ce que François Béreur appelle notamment une certaine mythologie, Mythol Europa, et il va se rapprocher de quelque chose de plus personnel, de plus intime, et de plus contemporain, dans ce qu'il veut dire. Et les théâtres ouverts, Lucien Hatoun et Micheline Hatoun, je pense, vont être un peu décontenancés au départ par la réorientation de son écriture. Il faut savoir, par exemple, que Dernièrement avant l'oubli, qui est une pièce quand même très célèbre et très appréciée aujourd'hui de Jean-Luc Lagarce, sa première version est refusée par Lucien et Micheline Hatoun. Ils disent ne pas comprendre où va son écriture à ce moment-là. Jean-Luc Lagarce donc retravaille sur leurs conseils et il le fait. Je pense que c'était des bons conseils d'ailleurs, véritablement. Et Dernier remords avant l'oubli sera monté par Hans-Peter Klaus à Théâtre Ouvert et publié en tapuscrit. Juste la fin du monde, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand il la donne à lire à François Béreur trouve que cette pièce est superbe, et quand il la donne à lire à Lucien et Micheline Hatoun, ils ne la comprennent pas, ils ne voient pas très bien ce qu'elle raconte, de quoi elle parle, et c'est une incompréhension qui est difficile, véritablement, pour Jean-Luc Lagarce.
Mais alors, du coup, pardonnez-moi, oui. Si on peut imaginer que les Hatoun ont trouvé cette pièce un petit peu difficile, je voudrais faire un petit pas de côté pour vous demander ce que vous pensez, vous, de la difficulté de cette pièce pour des élèves de première qui l'étudient pour le bac.
Je pense que ce qui décontenance peut-être dès le départ dans la pièce, et je pense que c'est visible dès le prologue, hein, c'est que il est très difficile de situer notamment le personnage principal, il est difficile de situer l'action de la pièce, où est-ce qu'elle se déroule, est-ce que c'est un rêve, est-ce que ça s'est vraiment passé. Je vous rappelle que la didascalie donc qui débute la pièce, c'est cela se passe un dimanche dans la maison de la mère et de Suzanne, ou pendant près d'une année entière. Et véritablement, ce qui, je pense, est difficile dans la pièce, c'est d'arriver à ne jamais trancher. Parce que Lagarce ne fait pas ça, il ne tranche pas. On n'est ni véritablement dans un rêve, dans la conscience de Louis, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que Louis, que la pièce est une forme d'espace mental de Louis, dans laquelle il convoque les personnages, sa famille, et il leur fait dire des choses comme des marionnettes. Ou alors, on peut avoir l'impression également que tout simplement c'est un dimanche qui s'est vraiment déroulé. Or la difficulté c'est que Lagarce ne tranche jamais, et il faut toujours garder ça à l'esprit, de ne jamais inscrire l'action ni dans un rêve ni dans une complète réalité. La pièce est toujours sur la brèche, sur une forme de suspens, et je pense que c'est ça qui est difficile à la fois et qui déconcerte un petit peu, qui est une vraie difficulté également pour la mise en scène.
Donc il faut garder l'implicite et expliquer aux élèves justement l'intérêt et la beauté de cet implicite, de cette forme d'obscurité.
Tout à fait. Il faut garder cette forme d'obscurité puisqu'elle est féconde, à vrai dire. Elle est féconde parce que c'est ça qui ouvre la pièce au possible, qui ne referme pas la pièce sur... c'est-à-dire que la pièce, elle ne trouve pas de résolution. Quand on parle, par exemple, d'une structure classique, vous voyez que dans Juste la fin du monde, il y a un prologue, un épilogue, deux parties, un intermède. Donc on a une pièce comme ça, une structure qui peut être vue de manière assez classique, en cinq parties, hein, n'est-ce pas ? Et en fait, véritablement, cette pièce, il y a un conflit dans cette pièce, de plus, hein, il y a un vrai conflit, on pourrait penser ça avec la prise de parole d'Antoine, mais il n'y a pas de résolution. Et ça, c'est très important, puisque cette absence de résolution permet de garder ouvert les significations dans la pièce.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer ? Non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Mais tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Et tu fermerais les yeux sur les erreurs. Où ils me reprocheraient tout, ne me pardonneraient rien. Ça pleurerait, ça crierait. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
C'est pas grave.
La bande-annonce de Juste la fin du monde, le film de Xavier Dolan, où Gaspard Ulliel pose l'enjeu du film et donc de la pièce, ce retour en famille d'un jeune homme célèbre, cet écrivain atteint par le virus de sida mais qui ne l'a pas dit encore à sa famille. On parlera du film un petit peu plus tard, mais là, ça pose Alexis Le Prince quand même l'intrigue, si l'on peut dire, de la pièce. Alors justement, tout est dans le « si l'on peut dire ». Est-ce que ça raconte quelque chose quand même, cette pièce?
C'est une bonne question. Oui, bien sûr, ça raconte quelque chose, ça raconte même beaucoup de choses. C'est cette impossibilité de dire, déjà, cette impossibilité d'avouer. Enfin, est-ce que c'est une impossibilité ou est-ce qu'à un moment, c'est aussi une volonté de ne pas dire?
Pourquoi on ne voudrait pas dire? Pourquoi Louis ne voudrait-il pas avouer à sa famille qu'il est séropositif?
Je pense qu'il le dit dans un monologue, c'est qu'à un moment, il se rend compte que annoncer sa mort, il le dit comme ça, lancer sa mort dans la bataille, c'est en fait gagner d'avance. Et je crois que ce qu'il cherche à dire à sa famille, ça n'est pas seulement sa mort, ça dépasse l'annonce de sa mort, c'est essayer de trouver une forme de réconciliation. C'est-à-dire que l'enjeu de la pièce, ce retour-là, pourquoi est-ce qu'il veut annoncer la mort? L'enjeu n'est pas seulement de retourner pour dire qu'il va mourir. L'enjeu, c'est de dire qu'il va mourir pour essayer de retrouver une forme de réconciliation avec la famille. Et peut-être qu'à un moment, le fait de ne pas dire cette mort, de ne pas lancer la mort dans la bataille, c'est se donner la chance d'atteindre une réconciliation véritable. Mm-hmm. Donc, voilà.
En fait, c'est par respect qu'il ne veut pas poser cette carte qui finalement écrase tout, qui est de dire « je vais mourir ».
Possiblement. En tout cas, je pense que c'est une interprétation qu'on peut faire. Imaginons simplement que Louis annonce dès le début de la pièce sa mort, qu'il le dise tout de suite. Est-ce que Suzanne prend la parole? Est-ce que la mère prend la parole? Est-ce que la fin de la pièce se termine avec cette prise de parole d'Antoine? Et est-ce que Antoine dit ces choses-là? C'est pas si simple. En fait, le fait de retenir cette annonce, de ne pas dire qu'il va mourir, eh bien, en fait, permet peut-être l'accueil de la parole de l'autre. C'est-à-dire, le fait de ne pas parler, à un moment, va pouvoir permettre, oui, de donner la place à l'autre, aux autres.
Et finalement, d'avoir un lien normal, parce que c'est ça que recherche sans doute le personnage de Louis, c'est d'avoir un lien qui ne soit pas grévé par autre chose que l'amour entre les membres d'une même famille. La question de l'amour, justement, est-ce que vous diriez que c'est un thème de cette pièce, Alexis Le Prince ?
Tout à fait, oui, complètement. Oui, c'est un thème extrêmement important, il me semble. C'est un thème important d'un point de vue familial. Et dans les répliques d'Antoine, dans la scène 3 de la deuxième partie, c'est une question qui on voit est sujet de conflit hein, entre les deux frères, puisque Antoine rappelle que Louis a sans cesse fait sentir aux autres qu'on ne l'aimait pas assez, hein, c'est ce qu'il lui dit. Donc c'est l'amour familial qui est important et qui était aussi important, n'est-ce pas, dans la vie personnelle de Lagarce, c'est-à-dire sentir l'amour de ses parents. Il y a des moments entiers dans le journal où pour lui, cet amour est compliqué. Mais c'est aussi un amour, comment dire, l'amour classique, l'amour du couple, dont Louis est exclu et qu'il voit chez son frère, par exemple, avec, avec Catherine, avec sa femme, avec les enfants qu'ils ont. C'est-à-dire que tout est question dans cette pièce de est-ce qu'on est exclu de l'amour, quel rapport à l'amour qu'on a. Louis dit lui-même qu'il est abandonné, mais qu'il cherche, qu'il demande l'abandon. Donc c'est cette ambiguïté vis-à-vis de l'amour, ce rapport de proximité et de distance qui est oui, un des thèmes majeurs de la pièce, tout à fait.
Ce devait être il y a 10 jours, et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidais de revenir ici. Je me suis levé et j'ai dit que je viendrais les voir, rendre visite, et ensuite les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis données, je n'ai plus changé d'avis. Il y a 10 jours, j'étais dans mon lit, et je me suis éveillé calmement, paisible. Cela fait longtemps. Aujourd'hui 1 an, je l'ai dit au début. Cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus et que je me retrouve toujours, chaque matin, avec juste en tête pour commencer à nouveau, juste en tête, l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé, calmement, paisible, avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents, et les gens encore, tous les autres dans ma vie, les gens les plus proches de moi, que mes parents et tous ceux que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, admettons que je m'en souvienne, ma mère, mon frère là aujourd'hui, et ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre ne m'aime plus, ne m'aima plus, et qu'on ne m'aime plus, ce que je veux dire, au bout du compte. Comme par découragement, comme par lassitude de moi, qu'on m'abandonna toujours, car je demande l'abandon. C'était cette impression, je ne trouve pas les mots lorsque je me réveillais. Un instant, on sort du sommeil, tout est limpide. On croit le saisir pour disparaître aussitôt.
Un extrait de la pièce par Laurent Stocker. Qu'est-ce qui se joue, Alexis Le Prince, selon vous, avec ce personnage de Louis ?
Dans la réplique qu'on vient d'entendre, vous voulez dire ?
Par exemple, mais on pourrait aussi, tout à l'heure, vous disiez qu'il était abandonné, qu'il se sentait seul, et que pour lui, c'est la fin du monde, c'est juste la fin du monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce personnage, peut-être de la manière dont il a évolué aussi au fur et à mesure des versions de la pièce ?
C'est un personnage qui, dès le début de la pièce, se présente comme quelqu'un qui veut maîtriser son destin jusqu'au bout, hein, qui veut rester maître de lui-même, qui veut annoncer sa mort pour rester maître, qui est clairement dans une volonté de maîtrise. Or, ce qu'on voit, et ça c'est très sensible quand on regarde les brouillons de l'écriture de Juste la fin du monde, et c'est très sensible maintenant aussi dans la version finale, hein, qu'on peut lire, c'est un personnage qui perd peu à peu pied. C'est difficile de dire si cette perte de soi, hein, comme dirait Lydie Paris, eh bien, est quelque chose, un acte volontaire ou un acte qu'il subit. C'est peut-être un peu entre les deux. Mais véritablement, au fil de la pièce, Louis va peu à peu s'effacer. C'est-à-dire que la pièce pourrait vraiment se présenter comme une forme de drame subjectif, c'est-à-dire un théâtre où tout n'est vu qu'à partir du point de vue de Louis. Or, à partir de l'intermède, eh bien, on commence à avoir des scènes qui se déroulent sans Louis, mmh. où il y a des personnages comme Antoine et Suzanne, par exemple, eh bien, qui vont être indépendants, qui vont avoir des scènes juste à deux. Et c'est à partir de ce moment-là où la pièce se renverse véritablement et où on va pouvoir avoir, comment dire, une version des faits sur Louis qui n'est pas celle de Louis. Et donc voilà, ce personnage de Louis, je pense que Jean-Luc Lagarce l'a travaillé très fortement dans cette dimension de oui de perte de soi, d'abandon de soi aussi, qui va lui permettre tout simplement oui de d'essayer en tout cas d'accueillir l'autre, de tenter une forme de réconciliation familiale.
D'ailleurs, vous expliquez bien, parce que vous avez beaucoup travaillé sur justement l'intermède de cette pièce-là, et vous expliquez à quel point c'est cet intermède qui l'a le plus retravaillé au fur et à mesure des années. Ce qui du coup est un peu à l'origine de la thèse que vous venez d'exprimer.
Tout à fait. Hein. Quand on regarde l'ensemble des brouillons, alors on n'a pas tous les brouillons de Juste la fin du monde. Hein. C'est un travail qui est très long. On sait qu'il reprend beaucoup le texte. Mais dans les brouillons qui sont conservés, qu'on peut consulter, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment l'intermède, au moment de l'intermède, que l'écriture bloque. C'est-à-dire que véritablement, Jean-Luc Lagarce écrit, et au moment où il arrive vers les scènes qui vont constituer par la suite l'intermède, l'écriture s'arrête, il y a une sorte de point de blocage, et ce point de blocage, il va le travailler jusqu'à le dépasser. Et il va le dépasser notamment en inventant ces scènes. Si vous voulez, au départ, ces premières corrections cherchent à créer une forme de continuité, de conserver la présence de tous sur scène, de justifier les entrées et sorties. Or, petit à petit, dans l'écriture, il va rompre avec cela, et il va inventer ces scènes de l'intermède étrange, où on ne sait pas où sont Étoile et Suzanne, où l'espace devient beaucoup plus onirique, où le temps lui-même se dilate, hein, véritablement, puisque dans l'intermède, nous avons des scènes qui se passent en même temps, mais qui sont deux scènes différentes. Donc on a deux fois la temporalité qui se répète, et c'est à ce moment-là où véritablement la pièce s'ouvre complètement, où elle quitte, si vous voulez, son réalisme, le réalisme qu'on aurait pu croire qu'elle donne à voir au début, pour s'ouvrir vers quelque chose de plus étonnant, de plus onirique, de plus mental, on va dire, si vous voulez.
Toujours sur ce personnage de Louis, dans la préface que Jean-Pierre Sarrazac a donnée à l'édition en poche de la pièce Au solitaire intempestif, Sarrazac explique que pour lui, le personnage de Louis, c'est finalement celui qui est parti, c'est celui qui est mobile, celui qui est toujours en mouvement. D'ailleurs, il explique que François Béreur a mis en scène la pièce en faisant un danseur, un funambule, alors que les autres membres de la famille, finalement, c'est ceux qui vivent attachés à un lieu, à une terre, ceux qui n'ont pas bougé. Et au fond, le personnage d'Antoine est assez comme cela, ce qui pose des problèmes, évidemment, probablement de jalousie. Je vous laisse réfléchir sur ce thème-là et je vous fais écouter d'abord un extrait de la scène 11 de Juste la fin du monde et qui peut-être vous donnera également matière à réagir.
On ne se connaît pas et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. Des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais, tu m'as vu et tu ne sais pas comment m'attraper. Comment me prendre? Vous dites toujours ça. On ne sait pas comment le prendre. Et aussi, je vous entends, il faut savoir le prendre. Comme on le dit d'un homme méchant et brutal. Tu voulais m'attraper et tu as jeté ça. Tu entames la conversation, tu sais bien faire. C'est une méthode. C'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Mais moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Pourquoi tu es là, je ne veux pas le savoir. Tu as le droit, c'est tout et rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également. C'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi, et tu peux y être chaque fois que tu le souhaites, et encore, tu peux en partir, toujours le droit, cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi, je ne dois pas avoir peur de ça, tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas.
Où est-ce que tu vas ?
Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant. Tu voudras me parler et il faudra que j'écoute et je n'ai pas envie d'écouter. Je ne veux pas. J'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout. Toujours, tout le temps. Depuis toujours, vous me parlez et je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent entendre. Mais souvent, tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple.
Hello there. The angel from my nightmare. The shadow in the background of the moor. The unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally.
La Compagnie des Œuvres,
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Alexis Leprin, sur ce personnage d'Antoine, probablement la jalousie peut-être qu'il entretient à l'égard de son frère qui est parti, qui a réussi, lui qui est resté finalement sédentaire. Est-ce que vous êtes sensible à ce thème-là ou est-ce que finalement vous souhaiteriez analyser les choses différemment ?
Non, vous avez raison d'amener ces thèmes-là d'analyse. C'est assez intéressant d'ailleurs dans les extraits que vous avez prêté à notre écoute. On se rend compte, et c'est quelque chose dans la pièce qui revient très souvent, c'est que le personnage d'Antoine veut tout le temps, il est tout le temps en mouvement en fait. Au contraire de Louis qui est souvent,
il peut pas s'asseoir.
En tout cas,
il peut pas rester.
Il veut pas s'asseoir. Exactement, tout à fait. Il veut toujours sortir et il veut toujours fuir. Il y a quelque chose où Antoine, dans la pièce, ne reste jamais en place. Et c'est très étonnant puisque, au contraire, Louis, à la lecture, mais dans certaines mises en scène, c'était le cas également, c'est celui qui est le plus fixe, en fait. C'est le point de fixation des autres personnages dans la pièce. Et en effet, ça rejoue de manière paradoxale ce que vous disiez en rappelant ce couple de sédentarité et d'esprit nomade. Il y a un cadre d'analyse qui est celui géographique, en effet. Dans la pièce, Antoine, Suzanne, la mère bien entendu, sont restés au même endroit, tandis que Louis, lui, est parti. Mmh. Néanmoins, Louis, bien sûr, c'est un personnage qui ressemble un peu à Ulysse, c'est-à-dire qu'il est parti longtemps, près d'une dizaine d'années, et Ulysse, quand il revient à Ithaque, il doit reconquérir Ithaque.
Il faut dire qu'il n'a pas donné tellement de nouvelles, et sa sœur lui fait bien comprendre que les lettres qu'il envoie, qui sont en fait des cartes postales, ne sont pas tellement fournies, il n'y en a pas beaucoup.
Tout à fait. Et c'est peut-être l'une des illusions du personnage de Louis, c'est de croire qu'il va revenir et que rien n'a changé. Or, étrangement, les gens, Antoine, Suzanne, sont restés sur place, ils sont restés sédentaires en effet, mais ils ont évolué. Suzanne a évolué, Antoine s'est marié, Antoine a eu des enfants, et Suzanne et Antoine le disent, plus particulièrement Antoine, on ne se connaît plus. C'est-à-dire que ce qui a évolué, c'est que les personnages, véritablement, ont perdu un rapport entre eux. Et ça, c'est extrêmement intéressant à analyser. C'est véritablement l'illusion de Louis dans la pièce. D'autre part, cette question de la sédentarité, du fait d'être nomade, c'est aussi pour Louis une manière d'échapper à la mort, c'est-à-dire de fuir. Il y a un passage notamment où il dit qu'à partir d'un moment où il a su qu'il était malade, il a voyagé beaucoup, jusqu'à ce qu'à un moment, la mort le rattrape en lui disant, en lui tapotant sur l'épaule, n'est-ce pas, la fameuse phrase « à quoi bon ?» Fuir la mort, c'est aussi essayer de fuir la fixité, de fuir ce qui nous fige. Et parfois, ce qui nous fige, c'est le jugement des autres. Et de ce point de vue, Louis cherche à fuir ce jugement, bien entendu. Il part notamment, il prend l'exemple de la photographie qui fige les êtres dans une forme d'image d'épinal, qui fige leur caractère. Mais c'est également le cas d'Antoine, qui va énormément fuir le jugement des autres, et avec raison, avec justesse, comme il le dit lui-même. Le point de départ de la réplique finale d'Antoine, c'est le fait qu'il se défend contre l'accusation d'être brutal. On dit de lui qu'il est brutal. Mmh. Et véritablement, il va se défendre en résistant à cette image, à ce figement de soi. Et c'est ça qui va mettre en mouvement Antoine, véritablement. Donc voilà.
Il le fait de façon brutale, c'est-à-dire qu'il hausse la voix quand même.
Alors tout à fait, il le fait de façon brutale, mais néanmoins, il y a une inflexion dans la réplique, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, à partir du moment où il a atteint le comble, l'acmé de la brutalité, c'est-à-dire la violence physique, avec sa fameuse réplique « tu me touches, je te tue », et il dit ça à Louis qui cherche à le calmer, à partir de ce moment-là, on remarque malgré tout une forme d'apaisement. Mmh. C'est d'ailleurs des répliques, c'est intéressant de voir le travail que Xavier Dolan a fait vis-à-vis de cette fin, juste la fin du monde, puisqu'il a coupé toutes les répliques qui viennent après ce moment d'acmé physique, on va dire.
Vous nous faites une excellente transition.
Le théâtre, en fait, franchement, dans l'idée de l'exercice, ne m'a jamais fait peur. Je m'en fous qu'on ressente le... On dit souvent, c'était bien, on sentait pas du tout la pièce, ou on sentait pas du tout le théâtre. Mais moi, j'aime le théâtre. Je pense que C'est très clair aussi dans les films que je fais depuis le début. J'aime les films qui sont expressifs, j'aime les films qui sont plus latins, qui sont plus intenses. Certains font des cinémas plus posés, puis des cinémas ou un cinéma. Non, c'était pas un contre-pied au théâtre que de se rapprocher comme ça, mais comme je l'ai expliqué plus tôt, en fait, c'était que j'ai ressenti que c'était une nécessité pour aller au plus près de l'émotion puis du détail en se rapprochant des acteurs. Pour moi, c'est la langue, en fait, de Lagarce que je trouve tout à fait exceptionnelle, tout à fait unique.
Québécois Xavier Dolan évoquant le passage du théâtre au cinéma qu'il a effectué. Alors parlons un peu du film avec vous, Alexis Le Prince, et de l'adaptation. Qu'est-ce que le film apporte selon vous ou retranche à la pièce? Qu'est-ce qu'il met en valeur? Sur quoi place-t-il le projecteur? Quelle est son interprétation?
Alors, il y a une chose qui est déjà claire. Et je viens de vous le dire, il enlève en effet certains passages du texte, hein, très clairement. Et en fait, ce qu'il retranche clairement, c'est l'intériorité des personnages. C'est-à-dire que, mis à part le premier monologue de Louis, qu'il reprend, c'est-à-dire ce qui correspond dans la pièce au prologue, les deux autres monologues de Louis dans la première partie, la scène 5 et la scène 10, dont vous avez passé quelques extraits tout à l'heure, il les enlève véritablement de son adaptation. Pareillement, je viens de le dire sur les dernières répliques d'Antoine. Si bien que, voilà, en termes de texte, il enlève déjà cet accès à l'intériorité à la fois d'Antoine et de Louis.
Et qu'est-ce qu'on peut en conclure, selon vous, sur la vision de Xavier Dolan de la pièce?
Bien, je trouve que le film est plus noir que la pièce, par conséquent. Hein, il est plus dur encore, véritablement. Il se termine sur une acme très difficile. Et notamment, il y a un changement important qu'on peut noter, c'est qu'à la fin de la réplique d'Antoine, dans la pièce, Antoine s'adresse à Louis, et Louis lui répond. Il lui répond, voilà, Antoine lui dit, voilà, j'ai fini, et seuls les imbéciles auraient pu rire de ce que je viens de dire. Et Louis lui répond, je ne les ai pas entendus. Quand on compare cette scène avec la scène finale de Xavier Dolan, véritablement, là, tous les personnages s'en vont dans le jardin, il me semble. Hein. Ils quittent véritablement le hall d'entrée où se trouve Louis, et Louis reste finalement absolument seul. Mmh. Donc, Xavier Dolan fait le choix véritablement de tirer la solitude du personnage de Louis, hein, complètement, et je trouve que le film, du coup, donne une vision voilà, encore plus dure de ce départ de la maison familiale.
Est-ce que le montage, pour lequel Xavier Dolan a reçu d'ailleurs un César, il a d'ailleurs également été jugé meilleur réalisateur, il a eu le Grand Prix à Cannes, enfin c'est un film qui a été multi-récompensé. Est-ce que le montage, les gros plans, vraiment le travail de mise en scène, dit aussi quelque chose de neuf ou de différent? En tout cas, quel est votre point de vue sur ce travail?
Tout à fait, je pense que ça se voit notamment dans son travail de la couleur sur les images, de la lumière véritablement. C'est-à-dire que chez Lagarce, on a la pièce, et notamment avec les répliques, l'accès à l'intériorité des personnages, on a véritablement un nuancier, un dégradé. Chez Dolan, il y a véritablement un contraste extrêmement fort qui donne un propos, sur la rupture entre les êtres beaucoup plus fort, hein, véritablement. Il y a un vrai point de non-retour chez Dolan. Et de ce point de vue, il y a une forme de résolution qu'il n'y a pas chez Lagarce. Et je pense que c'est ce que dit de plus Xavier Dolan dans son film.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi rappeler un autre film, celui d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, c'est un film pour la télévision, qui a précédé à l'adaptation de Xavier Dolan sur la même pièce?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un film, si je me souviens bien, avec les acteurs de la Comédie Française. Mmh. et qui reprend intégralement le texte de Jean-Luc Lagarce. C'est-à-dire que Xavier Dolan, dans son film, réécrit tout de même. Hein, il réécrit beaucoup, et notamment il tire le texte vers plus de réalisme, plus de une langue un peu plus grossière à des moments également, plus vulgaire, tandis que le film que vous mentionnez, eh bien, garde entièrement le texte de Lagarce, et du coup garde aussi sa théâtralité un peu plus forte. Chez Xavier Dolan, véritablement, il y a une vraie conversion, une vraie adaptation au cinéma. C'est-à-dire que l'intériorité qu'on a, par exemple, des personnages au théâtre, cette fois-ci va passer par des plans, des ralentis, une ambiance sonore beaucoup plus forte, qui va nous donner accès à Antoine, qui va nous donner accès à Louis et à Catherine. De ce point de vue, Xavier Dolan fait vraiment acte de cinéma.
Alors, on ne sait pas évidemment ce que Lagarce aurait pensé du film de Dolan, ni du film dont vous venez de parler, Alexis Le Prince. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le cinéma l'intéressait énormément et que probablement il a souhaité, sans y parvenir, faire du cinéma.
Oui, tout à fait. C'était un grand cinéphile et le journal en témoigne. Il voit énormément de films classiques.
Tout type de films d'ailleurs, aussi bien des films hollywoodiens que des films de Tarkovsky.
Tout à fait. Tout à fait, oui. Il aime beaucoup Hitchcock, il adore Tarkovsky, bien entendu, mais ça lui arrive aussi d'aller voir le dernier de Schwarzenegger et d'y prendre beaucoup de plaisir. Et il l'avoue sans aucun problème. Et c'est le même rapport qu'il entretient également avec la musique, où il aime aussi la musique populaire, beaucoup, hein, Jean-Luc Lagarce.
Et avec le théâtre aussi, puisqu'on a dit qu'il aimait Jacqueline Maillan, par exemple.
Tout à fait, le musical, il a écrit également sur le théâtre yiddish, donc le théâtre, on pourrait dire, un peu mineur, hein. Il aime bien ces rapports-là, en effet. Et lui a écrit un premier scénario, qui est des Grands Augustins, à la fin des années 80, et à la fin de sa vie, il écrit en collaboration avec Gérard Buys un scénario qui s'appelle Des mensonges, donc ils co-écrivent à deux, et ils avaient le projet de le réaliser véritablement. Et ce que me disait Gérard Buys, c'est que bon, là, il collaborait sur l'écriture scénaristique, mais qu'il sentait vraiment chez Lagarce un désir de réalisation cinématographique qui s'est matérialisé quelques années auparavant dans un film vidéo, Journal 1, qu'il a créé au centre de création vidéo de Montbéliard, et qui est un film qui a été récompensé dans des festivals. Hein.
Et qui nous donne peut-être une idée de ce qu'aurait pu être le cinéma de Lagarce, c'est-à-dire finalement un cinéma quand même très expérimental aussi.
Très expérimental, tout à fait. C'est ce que me disait Gérard Buys, avec qui il discutait beaucoup de cinéma. Leur maître, le modèle un petit peu de réalisateur qu'ils avaient en tête, c'était vraiment Tarkovsky. Quand il voit Le Sacrifice, notamment, Jean-Luc Lagarce dit « c'est ce que j'aimerais écrire ». Et quand il pense au cinéma, il pense à ce type de film exigeant, difficile, poétique également.
Et on parlera demain un petit peu en particulier de ce journal vidéo de Lagarce dans la chronique d'Aliette Armel. Merci beaucoup Alexis Le Prince d'être venu nous voir, enfin de loin, à distance aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes enseignant agrégé de lettres et que vous avez coordonné le numéro 5 de Scénographie intitulé « Juste la fin du monde » de Lagarce à Dolan. La compagnie des œuvres, Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Didier Pinault, Romain Billet et Clément Daté. Demain donc, dernier épisode, nous reviendrons avec Marie-Hélène Boblet sur le journal de Lagarce. Mais tout de suite, ce sont les sciences sur France Culture.